avec une langue très précieuse, très ouvragée. Enfin, on peut faire des thèses entières sur Perrault. Sauf que, et ça, finalement, je n'en sais pas assez vraiment sur Perrault, parce que comme il m'agace un peu, je ne suis pas allée assez loin. Je ne sais pas si il ne savait pas, s'il n'avait pas compris, ou si il avait bien compris. J'ai comme l'intuition qu'il n'a peut-être pas tout compris, mais je ne sais pas, je ne veux pas l'affirmer. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que pour les salons littéraires, qui assurent un peu sa petite cote et sa renommée, et un peu quand même, il avait plaisir à aller dans ces salons littéraires où il lisait ses contes pour des adultes, pour des femmes et des hommes très précieux, très élégants. Il enlève évidemment tout ce truc de dévoration de la grand-mère. Donc le truc du deuil, ça ne l'effleure pas trop. Et puis attendez, c'est quoi là? La petite gamine, elle part dans la forêt. Non, mais c'est quoi cette histoire? Coucou, chenini, je retourne à la maison, à la casbah, il n'en sort plus. Il vous fait le petit chaperon rouge, se fait manger. Et au cas où on n'aurait pas compris, il nous recolle une morale bien claire à la fin, que j'ai bien évidemment oubliée, mais qui, en gros, dit quelque chose comme « De toute façon, méfie-toi du loup, tu n'as qu'à pas courir le bois, tu restes chez toi, tu fais de la broderie et on s'en portera mieux. » Et donc, de ce conte du pouvoir féminin magnifique à tellement de niveaux, ça devient un conte d'avertissement, « Méfions-nous du loup, point. » Bon, ça a beau être écrit dans une langue française somptueuse, moi, personnellement, je ne raconterai la version de Perrault que pour la démonter. Mais bon, ça, je ne veux pas rentrer. Il faut que j'ai une vision. Ne nous égarons pas. Je veux rester dans une analyse pas trop engagée. Je suis hyper engagée déjà. Hein, j'ai du mal, mais j'essaye de poursuivre. Donc là, on était au XVIIe siècle. Les siècles se passent, bon, ça, tranquillement. Le conte de Perrault a un succès phénoménal, ça c'est sûr, il devient la grande référence. Mais quand même, ça doit renacler un petit peu. Et quand les Grimm, d'un biais ou d'un autre, réussissent à faire leur récolte, leur collecte, il faut savoir que la langue française à l'époque a un énorme pouvoir et très reconnue. Et donc, il y a beaucoup de nourrices françaises qui sont en Allemagne. Donc, est-ce que c'est par ce biais-là que le comte de Perrault est arrivé en Allemagne? Je ne sais pas exactement, mais donc il y a plusieurs pistes. Là, c'est pareil, il y a des thèses entières sur le sujet. Toujours est-il que les Grimm récoltent une version de Perrault, mais améliorée. C'est-à-dire que on a oublié la grand-mère qui se fait dévorer. Hein, ça, c'est pas ressorti. Sauf que le petit chaperon, la grand-mère se fait manger, d'accord. Le petit chaperon rouge se fait manger, d'accord. Mais quand même, ça fait un peu pleurer les enfants, ça. Donc, arrive le chasseur ou le bûcheron qui ouvre le ventre du loup et qui sort les deux gourdasses. Et donc, de ce conte du pouvoir féminin, on est passé au conte d'avertissement. Et du conte d'avertissement, on est passé à, pardon, excusez-moi, en même temps, on est au 19e siècle, c'est vraiment le siècle du patriarcat dominant. Il n'y a pas besoin d'être très, voilà, il n'y a personne qui conteste ça quand même. Hein, 19e siècle, on ne peut pas faire plus patriarcal, le patriarche, la table, chien, voilà. Donc, le petit chaperon rouge et sa grand-mère, les deux pauvres petites gourdasses, heureusement, se sont sauvées par le bûcheron, l'homme des bois, l'homme, le chasseur, le vrai, quoi. C'est pas un troubadour ou un conteur qui vient te sauver, hein, non, avec de la parole ou de la poésie, non, voilà. Bon, 19e siècle, voilà. Alors, ensuite, tout ça continue de mûrir gentiment. Puis on arrive au 20e, 21e siècle et puis on a des artistes somptueux et magnifiques comme Joël Pommerat qui va donner une version très esthétisée, avec de la lumière, de la danse, des sons. Le début du Petit Chaperon Rouge, c'est une jeune fille habillée tout en blanc qui traverse et on entend, tac, 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 on entend ses talons. Et moi, je me dis, mais pas que moi, en fait. Je pense toute la salle, en tous les cas, moi, j'étais venue avec des élèves qui étaient des élèves de troisième et on avait étudié ce texte et on pensait tous que... on se disait, mais purée, mais elle a des chaussures super hautes, mais elles sont fines, ces chaussures. On ne les voyait pas. Et en fait, c'était juste que c'était une danseuse qui était sur la pointe, qui faisait tac, 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 et le son nous donnait le son de talon. Donc, c'est la première des talons aiguilles et aiguilles. Donc, oui. Oh là là. Ah, les interventions de Teddy Aline. Oui, magnifique. Donc, oui, les talons aiguilles. Alors, vous voyez, il a joué Pomera avec la version de... Ben, c'est un homme de théâtre, c'est un homme de littérature, on ne va pas lui faire un procès. Il a pris la version de Perrault. Mais on ne va pas faire un procès, ou alors peut-être que si, on fait un énorme procès à Pomera, mais aussi à tous les manuels scolaires. Parce que là, tout à l'heure, pour rebondir... Dans les manuels scolaires de 6e, par exemple, le programme de 6e, c'est un rêve pour les conteurs. C'est l'Antiquité, c'est Gilgamesh, c'est les Métamorphoses d'Ovide, c'est l'Odyssée.